Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Là, on va parler d'un sujet délicat. Écoutez, on a beaucoup parlé de vaccination. Puis souvent, on parle de vaccination et des gens qui résistent à la vaccination en des termes un peu abstraits, je dirais. C'est-à-dire que on parle des statistiques, on parle de témoignages, on parle de gens qui résistent, là, qui font des coups de gueule sur Facebook. Mais ne pas être vacciné, ça peut avoir des conséquences tragiques pour vrai, dans le réel. On va parler aujourd'hui avec Sophie Léger. Elle est la mère de Mélodie Trépanier-Léger, 21 ans. Mélodie se trouve dans un état critique présentement aux soins intensifs dans un hôpital de Montréal parce qu'elle a contracté le virus et elle a développé des complications. Sophie Léger, bonjour.
Bonjour.
Sophie, je sais que c'est un moment difficile pour vous. Je pense que c'est important que vous racontiez l'histoire de votre fille Mélodie. Vous tenez à la raconter. D'abord, parlez-nous de Mélodie.
Mélodie, c'était une enfant extrêmement vivante. Elle avait la joie de vivre des projets à l'infini. Mélodie était militante contre le vaccin et les mesures sanitaires. Elle croyait à un complot gouvernemental pour faire peur aux gens alors que ce n'était qu'une simple grippe. Mélodie a contracté le virus la dernière. Nous sommes une famille de 8. Et puis, seul mon petit-fils, le bébé de 4 mois, n'a pas eu le virus. Tous les autres l'ont attrapé, même mon conjoint vacciné. Ce virus-là, c'est un virus, c'est un assassin.
Donc, Sophie, dans la famille de 8, là, il y a juste votre conjoint, le beau-père de Mélodie, qui avait été vacciné. Et lui, il a été infecté, mais il n'a pas développé des grosses complications.
Non, exactement. Le vaccin n'empêche pas d'avoir le virus. Le vaccin atténue les symptômes et empêche grandement de développer des problèmes plus graves et mortels.
Quand est-ce que Mélodie a été infectée?
Mélodie a commencé à avoir les symptômes le 17 septembre. C'était la dernière à attraper le virus à la maison.
Comment elle a réagi?
Elle refusait encore de croire au COVID, malgré que toute la famille l'avait, puis on était gravement malade. Elle disait que c'était une grippe encore. Elle voulait pas, non, elle a refusé d'aller passer le test pour voir si elle aussi était infectée de cette maladie. C'était à ce point-là, là. Elle a refusé les vaccins. Moi aussi, j'ai refusé les vaccins parce que moi, j'avais peur pour ma vie. Comme plusieurs d'entre nous, nous avons peur de mourir, de se faire injecter le vaccin, alors que le virus, lui, par contre, lui, va nous tuer si on y va pas.
Expliquez aux gens qui nous écoutent comment... Dans quel état se trouve votre fille présentement? Parce que là, je comprends qu'elle a d'abord été admise à l'hôpital du Suroît, hein, dans la région de Valleyfield, là. Et après ça, transférée à Pierre-Boucher à Longueuil. Maintenant, elle est à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Dans quel état elle se trouve?
Elle se trouve toujours dans un état critique. Les chances sont toujours minces. Elle est toujours intubée, paralysée, respiration ventrale par le ventilateur. Elle reçoit tous les plus grands médicaments qu'ils peuvent donner. Il n'y a pas autre chose que le temps. Les heures à venir, les jours seront décisifs pour Mélodie. Et on vient tout juste pas longtemps d'appeler pour avoir d'autres nouvelles, là. Et puis, son état est stable, mais il n'y a aucune amélioration, même avec la médication. Ici, on attend un appel de l'horreur, monsieur.
Et si j'ai bien compris, Sophie, l'hôpital a dit à la famille là qu'il allait falloir choisir quelques personnes seulement qui vont pouvoir veiller Mélodie. C'est un choix difficile de choisir qui va pouvoir être là.
C'est le choix le plus extrêmement difficile à prendre. Ça fait plusieurs heures qu'on se demande en famille ici, son père, soeur, frère, conjoint, moi-même, à décider deux personnes de nous qui va pouvoir approcher dans sa chambre pour les premières fois, évidemment, parce qu'on n'a jamais pu l'approcher depuis qu'il est rentré à l'hôpital. Ils vont pouvoir rentrer, ces deux personnes-là qui vont être désignées, rentrer dans la chambre, pouvoir lui parler pour qu'elle nous entende, leur apporter leur chaleur. Et puis, seulement 15 minutes par jour.
Qui va pouvoir être à son chevet?
On n'a pas encore décidé. C'est ce qu'on est en train de faire présentement, mais les heures sont comptées. Alors, il va falloir prendre une décision là, en consensus familial.
Écoutez, je sais que vous prenez la parole parce que vous voulez dire aux gens qui sont récalcitrants face au vaccin que c'est important de le faire. Quel message vous voulez leur lancer aujourd'hui?
Mon message s'adresse à l'humanité au complet. Mais je vous en prie, allez vous faire vacciner. Votre vie est en jeu, la celle de vos familles, parents, amis, et ceux qui vont sont chers. Attendez pas qu'il soit trop tard. Je vous en supplie.
Sophie, est-ce qu'il y a un moment où Mélodie, dans les derniers jours, a eu un moment de lucidité et elle s'est dit que c'était une mauvaise décision d'avoir choisi de ne pas se faire vacciner?
Non, elle n'a jamais voulu. Même que quand elle était admise au centre hospitalier ou à Salaberry de Valleyfield, ils ont dû lui faire le test du COVID et elle était encore très, très, très récalcitrante. Elle ne voulait pas passer le test.
Quel effet ça a eu dans la famille? Parce que je sais que ben dans la famille, vous l'avez dit tantôt, Sophie, vous-même, là, il n'y a pas juste Mélodie qui n'était pas vaccinée, vous non plus, vous ne l'étiez pas. Quel effet ça a eu sur les gens qui n'étaient pas vaccinés?
Écoutez, toute la famille va aller se faire vacciner. Au nom de mon enfant, au nom de tous ceux qui combattent ce virus mortel, on a changé complètement notre fusil d'épaule, puis on encourage tout le monde entier d'y aller.
Sophie, je vous souhaite la meilleure des chances ainsi qu'à votre fille. J'espère qu'elle va s'en sortir.
Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à toute l'équipe. Vous êtes merveilleux de faire passer notre message et de faire entendre Mélodie.
Bonne chance. C'était Sophie Léger, la mère de Mélodie Trépanier-Léger, 21 ans. Mélodie ne croyait pas à la pandémie, croyait pas au virus, a choisi de ne pas se faire vacciner. Elle lutte maintenant pour sa vie dans un hôpital, à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. On a vérifié, il y a 10 patients aux soins intensifs COVID à l'hôpital Royal Victoria, dont Mélodie, 21 ans, tous non vaccinés, tous beaucoup plus jeunes que lors des vagues précédentes. Il n'y a pas de patients hospitalisés à cause du vaccin. Je veux dire merci à Steve Sauvé, qui est journaliste pour La Voix régionale. C'est dans le coin de Valleyfield. C'est son histoire. C'est lui qui a sorti l'histoire de Mélodie. Et c'est lui qui me l'a signalé. Donc, pourquoi mettre Mme Léger en ongle? Parce que c'est pas une joke. C'est pas un film. Il s'agit pas de se dire, moi, je vais pas le pogner. Moi, je suis fort. Un bon système immunitaire. Ça m'arrivera pas. C'est pas un film. Si le virus interagit mal avec votre organisme et vous n'êtes pas vacciné, vous risquez de vous retrouver dans la position de Mélodie. Et c'est épouvantable d'être aux soins intensifs. Faut le dire. C'est pas juste, on est à l'hôpital. C'est pas la série General Hospital. C'est pas télégénique d'être hospitalisé aux soins intensifs. T'as un tube dans la bouche, t'es ventilé et on te plonge dans un coma artificiel bien souvent. Et quand tu te réveilles, si tu te réveilles, la réhabilitation va être épouvantablement difficile. J'écoutais Mme Léger me parler de Mélodie. Écoutez, cette famille-là, même s'ils étaient dans un certain déni, après ça, ils vont porter les stigmates, vont porter les cicatrices de cet événement-là pendant très, très longtemps. Écoutez, vous le savez, moi, je suis très critique face au mouvement anti-vaccin, aux complotistes. Si des gens ont des raisons médicales pour ne pas se faire vacciner, je peux comprendre ça. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a une partie de moi quand même qui se dit que les gens qui tombent dans ces mouvances-là, c'est comme les gens qui tombent dans les sectes. Ça devient, vous l'avez entendu, là, Mme Léger, sa fille, même malade, refusait de croire qu'elle avait la COVID. Pour elle, ça se pouvait pas. On est dans le domaine de la croyance, de la ferveur sectaire. Et je vais pas dire que Mélanie a couru après. Moi, je refuse de tomber dans ce cynisme-là. Je vais juste lui souhaiter une rémission complète. Et je remercie sa mère, Sophie. Je pense qu'elle fait œuvre utile en choisissant de parler publiquement de la nécessité de se faire vacciner.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler du merveilleux monde des profs. Il y a quelqu'un qui travaille au sein de ce métier-là, au Centre des services scolaires de Montréal, qui m'a écrit pour dénoncer une situation jugée absurde par beaucoup de profs. Je vous résume. La majorité des profs sont comme la société, sont en majorité vaccinés, puis il y a une minorité de profs qui est pas vaccinée. Voici le message de la personne qui m'a écrit, là. « Je suis vacciné et si je dois m'absenter parce que mon enfant doit s'isoler parce qu'il est infecté, ou on pense qu'il a pu être infecté, la personne me dit, je dois puiser dans ma banque de congés de maladie, la mienne, là, qui contient 6 journées par année. Mais parce que si je suis double vacciné et que mon enfant ou j'ai un proche qui est malade, je suis réputé pouvoir travailler, okay, si on est double vacciné. Cependant, si je ne suis pas double vacciné et que mon enfant a été exposé à quelqu'un. Mon enfant est infecté. Là, la santé publique prescrit que je sois en isolement parce que je suis pas vacciné. Vous me suivez? Le prof peut alors puiser dans la banque COVID de l'employeur et ne pas puiser dans sa propre banque de congés de maladie. Ça, c'est si vous êtes pas vacciné. Donc, je résume ça. Si vous êtes vacciné puis que vous devez vous absenter, vous puisez dans votre banque de congés, si vous êtes pas vacciné, semble-t-il que vous pouvez puiser dans la banque de congés de l'employeur et ne pas avoir à épuiser votre propre banque de maladie. On va en parler tout de suite avec Sylvain Mallette, il est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Monsieur Mallette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
C'est-tu vrai l'histoire que cette personne-là me raconte?
Ben, écoutez, on nous a confirmé, là, entre autres, là, que dans la région de l'Outaouais, là, les employeurs appliquaient cette consigne-là qui est contraire à celle qu'on lit dans le guide d'application qui a été publié le 24 septembre. Là. Donc, il semble y avoir une incompréhension de la part de certains employeurs, là, parce que c'est un non-sens, parce que dans les faits, c'est l'équivalent d'une prime à la non-vaccination. Là. C'est ça que ça veut dire là, dans la vraie vie, là, ce qui va à l'encontre même de l'idée d'encourager les gens à se faire vacciner.
Parce que vous faites la même lecture que moi, M. Mallette. Là. Si le prof n'est pas vacciné, ben, et qui doit s'absenter, doit s'isoler ou prendre soin d'un proche, lui, contrairement au prof double vacciné, n'a pas à vider sa banque de maladies.
C'est ce qu'on comprend de la consigne qui est appliquée à Montréal et dans la région de l'Outaouais, alors que le guide dont je vous parlais indique qu'indépendamment du statut vaccinal, l'enseignant qui doit s'isoler parce que, par exemple, il vit avec quelqu'un qui est peut-être potentiellement, ou en tout cas là, en tenant compte de la directive de la santé publique, ben continue, là, en vertu du guide, là, continue d'être payé comme le prévoit le contrat de travail. Après, faut voir est-ce que la personne est capable de faire une prestation de travail en télétravail. Mm-hmm. Donc, là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va contre l'idée même d'encourager les gens de se faire vacciner. Et là, est-ce que c'est un problème d'interprétation qu'ont certains centres, certains employeurs? Est-ce que c'est une autre directive qui est envoyée par la Direction générale des relations de travail? C'est sûr qu'on est après démêlé en ce moment-là.
Mais comment, à quel moment vous avez appris ça à la FAE?
Ben, on l'a appris aujourd'hui parce que c'est une information qui est remontée là, et on a lancé un appel pour savoir est-ce que la problématique était vécue ailleurs que sur le territoire là, de oui. du centre de services de scolaire de l'île de Montréal, là, de Montréal, pardon. Moi, j'ai été informé aujourd'hui, là, il y a peu de temps.
Dites-moi, est-ce que je me trompe ou les employeurs, là, les centres de services scolaires ne peuvent pas demander aux enseignants s'ils sont vaccinés?
Ils peuvent pas. Actuellement, il n'y a pas d'encadrement qui permet à un employeur d'exiger une preuve à l'effet que les profs, dans ce cas-là, là, que les profs seraient vaccinés. Cependant, moi, je profite de votre question pour rappeler hein, l'importance. On a travaillé très fort pour que les profs aient rapidement accès à la vaccination. On sait que la vaccination permet de lutter efficacement contre les effets de la COVID. Ça peut réduire la pression sur le réseau hospitalier. Donc, les profs ont répondu, nous le sommes là. On n'a pas évidemment de données sur le taux de la couverture vaccinale, mais on sait que le retour qu'on a eu, c'est que les profs ils sont allés en grand nombre.
Là. Mais là, écoutez, je veux pas être cynique, là, mais je reviens à la banque de congés de maladie. Ok, il sent, comme vous avez dit, il y a une prime à la non-vaccination là, parce que les profs non-vaccinés peuvent puiser dans la banque de l'employeur, puis ceux qui sont vaccinés doivent puiser dans leur banque de congés de maladie. Le prof vacciné, là, devrait juste dire qu'il est pas vacciné.
Ben écoutez, moi je pense que j'invite les gens à rester transparents, à ne pas. Juste, vous savez, ça pour moi c'est un exemple parfait d'incohérence. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. À l'évidence même, là, ça a pas d'allure. Je vais le dire de même. Donc moi je pense que c'est préférable qu'on travaille pour rectifier les choses plutôt que d'amener des gens à faire des fausses déclarations ou en tout cas à utiliser une zone grise pour essayer d'éviter. Puis je comprends là parce que s'il y a quelque chose de pas normal, si moi je suis désavantagé parce que je suis allé me faire vacciner par rapport à un collègue, puis là j'exclus les gens qui pour des raisons médicales peuvent pas se faire vacciner. C'est pas de ça dont on parle. Il y a quelque chose qui marche pas là. Donc moi je pense qu'il faut régler le problème à la source.
Monsieur
Malin, les employeurs dans le bon chemin. Là,
On s'entend, là, personne ne veut encourager personne à pas dire la vérité. C'est pas gentil. On se comprend. Mais je me mets à la place d'un prof qui est vacciné, qui est allé et qui, là, doit s'absenter. Il se dit, OK, attends une seconde. Moi, je vais devoir, pour m'occuper de mon enfant malade ou dont on pense qu'il est infecté, il va falloir que je vide ma banque de congés. Puis mon collègue conspirationniste qui, lui, se vante de pas être vacciné, ben lui, c'est le boss qui va le payer s'il est dans la même situation. Qu'est-ce que vous... Je veux dire...
On pourrait pas
blâmer ces gens-là de dire, ben finalement, c'est vous quoi, je suis pas vacciné.
Ben, c'est-à-dire que moi, je blâme pas les gens, par exemple, de prendre les moyens pour se faire entendre, de communiquer avec vous, de porter la situation aux oreilles de leurs représentants syndicaux, ce qui nous amène à faire des représentations pour que on règle la situation à sa face même. Ça n'a pas d'allure. Ça veut dire qu'il y a des gens là qui, dans des centres qu'on comprend là, actuellement, il y a certains employeurs qui, eux, estiment que ça a de l'allure. Alors que le commun des mortels là va dire, ben non, il y a quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Donc, moi, je pense que j'invite les profs qui sont visés par cette mesure-là à se faire entendre, à se manifester auprès de leurs représentants. Nous, on a déjà entrepris des démarches auprès de la direction des relations de travail du ministère pour qu'il y ait une clarification, d'autant plus que ça va à l'encontre du guide qui a été rendu public à la fin du mois de septembre, qui venait dire aux employeurs, voici comment vous devez vous comporter dans ces cas-là. Donc, on peut pas faire porter le poids de l'isolement sur des profs vaccinés, puis donner une prime à la non-vaccination aux profs qui font le choix de pas se faire vacciner. Et là, j'exclus les profs qui peuvent pas se faire vacciner. C'est pas de ces... Donc, il faut être cohérent, là. On peut pas d'un côté de la bouche, le gouvernement peut pas d'un côté de la bouche inviter les adultes à se faire vacciner, puis de l'autre bord, dire aux employeurs, ben, vous pouvez traiter inéquitablement vos employés. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
Ben d'accord avec vous. Ben écoutez, on espère que la politique va être corrigée parce que présentement, c'est comme vous l'avez dit, c'est pénaliser les gens qui eux sont vaccinés. Merci beaucoup,
Monsieur Mallet. C'est carrément une prime à la non-vaccination, ce qui va contre le discours que tient le gouvernement.
Bien dit.
Merci.
Bonne fin de semaine. C'était Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, et quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie. La logique derrière, c'est que si les enseignants sont... Ceux qui sont vaccinés n'ont pas à s'absenter si leurs enfants sont positifs. Donc, si tu dois rester à la maison pour t'occuper de tes enfants, c'est pas considéré COVID, c'est considéré comme raison personnelle. Je comprends, mais on est en train de sodomiser des mouches ici quand on raisonne comme ça. Si ton enfant de 8 ans doit rester à la maison parce qu'il est malade de la COVID, des petites nouvelles pour tout le monde, c'est toi le parent qui casque et qui doit rester là. Si tu dois puiser dans ta banque de congés de maladie, soit. Si ton collègue pas vacciné, lui, se fait payer par le boss pour la même situation, il y a un mot pour ça et c'est absurde. On va parler, non, c'est pas de la science-fiction, c'est peut-être l'avenir d'une partie de l'alimentation. Il y a des efforts très sérieux là pour faire pousser, je mets pousser entre guillemets, de la viande en laboratoire. Donc, à partir de protéines animales, on reproduirait ça. Évidemment, ce serait miraculeux si ça fonctionnait, si c'était adopté par les gens, parce que, vous le savez, l'industrie de la production de la viande, ben c'est coûteux et c'est aussi très, très polluant. C'était le sujet d'un texte du professeur Sylvain Charlebois dans La Presse aujourd'hui. Vous le connaissez, il est directeur principal au laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Sylvain, salut!
Bonjour, Patrick.
Expliquez aux gens comment c'est pas de la science-fiction de penser qu'on préfère pousser de la viande en laboratoire.
Ben, je sais pas si vous vous souvenez, en 2013, il y a un monsieur qui a été filmé en mangeant une pièce de viande de culture. En 2013, ça avait été financé par Google à l'époque. La pièce avait coûté à peu près 345 000 $US à produire. On l'a mangé, 140 grammes. Bon, il n'y a rien qui s'est passé. Mais 7 ans plus tard, là, 7-8 ans plus tard, maintenant cette pièce-là coûte environ 5 $US à faire. Ça avance comme pas à peu près là. Là, il y a 150 projets à travers le monde financés par des gens qui sont pas vraiment dans l'agriculture, c'est des gens là, dans le fintech, high-tech, Microsoft, Google, Amazon. Ils s'intéressent tous à l'agriculture, mais d'une autre façon. Et puis, c'est des milliards de dollars qui sont en fait investis dans ces nouvelles technologies pour reproduire de la viande de culture, de la viande de laboratoire. Là.
Mais de la viande de laboratoire, comment on fabrique ça, Sylvain?
Ben, on a besoin. D'abord, je suis pas un expert là en biochimie. Là, je tiens à vous avertir. Ouais. Mais ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est d'abord une cellule souche. Donc, on a bel et bien besoin d'un animal. Là. Donc, si on veut reproduire du bœuf, il faut une cellule d'un bœuf. Ensuite, en laboratoire, on a besoin d'un bioréacteur et on insère dans ce bioréacteur-là, évidemment, les cellules souches et des ingrédients naturels pour inciter les cellules à se reproduire, pour aboutir à de la viande, tout simplement. Et ça le processus peut prendre parfois quelques heures, quelques jours. Donc, c'est à peu près ça qui se passe. Et Singapour vient d'approuver l'an passé la commercialisation de poulets de culture. Là. Donc, c'est quelque chose qui se passe de vrai là-bas. Là.
Ceux qui ont mangé ça, est-ce qu'ils trouvaient que ça goûtait la viande?
Écoutez, je sais pas. Moi, j'étais supposé d'en goûter à Chicago l'année passée, là, en 2020. Là, on était dû pour aller en juillet à un congrès, puis on m'avait invité pour déguster une viande de laboratoire, parce que c'est pas légal, là, on s'entend, faut un permis spécial. Puis malheureusement, le congrès a été cancellé en raison de la COVID. Fait que j'attends toujours mon tour. J'aimerais ça vous dire comment ça goûte, mais je le sais pas. Mais j'ai hâte. Probablement que l'année prochaine, je vais avoir une chance de le faire. Là. Mais pour l'instant, là, la commercialisation de ces produits-là est interdite en Amérique du Nord.
OK. Sylvain, comme chercheur spécialisé là en agroalimentaire, en agriculture, vous connaissez bien les attentes du public, mais là, on n'est pas dans les attentes, on est dans l'acceptation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché pour de la viande Frankenstein?
Écoutez, quand Beyond Meat est arrivé sur le marché, le monde appelait ça de la fausse viande, de la viande Frankenstein, tout ça. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accusations.
Mais on savait que ça venait d'une protéine animale qui était transformée. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est créé en laboratoire.
Ben, Beyond Meat, Beyond Meat, quand Beyond Meat est arrivé sur le marché, dans le fond, on a créé une genre de guerre entre la protéine animale et la protéine végétale. Là, on parle plus de protéines animales ou végétales, on parle d'une protéine, disons, synthétique.
Oui.
Fait que c'est un peu ça qui se passe avec cette technologie-là. Vous me demandez, est-ce que les gens en veulent? Selon nos données, environ 27 % des Canadiens seraient game, là, entre guillemets, d'essayer. 27, là, c'est tout, là. Okay. Donc, il y a du chemin à faire, là.
OK. Une fois que ça c'est dit, disons que ça fonctionnait, on pouvait en créer. Disons que le public aimait ça, en achèterait. Ce serait une avancée incroyable parce que il y aurait moins de souffrance animale, il y aurait moins de pollution aussi liée à la culture de la viande.
Ben c'est ça, on coche toutes les grosses boîtes importantes ces temps-ci, l'environnement. Bon, pour produire une calorie de viande synthétique, ça prend 4 calories d'énergie, tandis que le bœuf, c'est 25, le poulet, c'est 12. C'est imposant. Au niveau environnemental, la production de protéines animales est imposante là, comparativement à la viande de culture. L'autre histoire, ben vous venez de l'évoquer, c'est le traitement éthique animal. C'est souvent ce que je dis aux producteurs agricoles qui parlent de transparence. On va montrer, on va éduquer les citadins, on va leur dire comment ça marche en agriculture. Puis souvent, je leur dis, ben peut-être qu'ils aimeront pas ce qu'ils voient là. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les fermes. La génétique laitière, là, comment reproduire les animaux, le veau qui est séparé de la mère dans le lait. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui dérangent. Il y a beaucoup de gens durant la pandémie qui sont devenus des propriétaires d'animaux de compagnie. 4 millions au Canada. Là. Donc, cette préoccupation-là, elle est réelle. Donc, si les gens peuvent savourer une pièce de viande sans penser qu'on a tué quelque chose, ben peut-être que ça va intéresser certains. Là.
Vraiment intéressant. Merci de nous avoir parlé de ça aujourd'hui, Sylvain. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine. Bye.
Salut, c'était Sylvain Charlebois, professeur titulaire et directeur principal au laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
Tu veux revenir sur la Journée nationale Vérité et Réconciliation. C'était la première, hein, et on sait que ça vise à créer des ponts avec les peuples autochtones, inuits et métis. Ton bilan est assez mitigé.
Oui, alors évidemment, on a tous pu voir que Trudeau s'est abstenu. Il est allé en vacances à Tofino, puis ça lui a été amèrement reproché, très, très, très amèrement reproché, avec des mots qui sont presque aussi malheureux que le geste de Trudeau lui-même. Là. La directrice générale de l'Association des femmes du Canada a dit « La décision de s'esquiver entièrement le jour même de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est stupéfiante par l'ampleur de son insensibilité et de son mépris pour ce que les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont subi par la suite de la colonisation. » Je trouve que Trudeau a fait preuve d'un peu de... Je pense pas que ce serait absenté pour la Journée du Canada, par exemple. T'sais. Je trouve que c'était comme bizarre de s'absenter pour une journée qui célèbre la réconciliation. Puis, mais la réaction de Mme Gros et de bien, bien d'autres personnes, c'est de dire mais que c'est un traître. T'sais, c'est un traître, ça se peut pas qu'il ait fait ça. Là. Je comprends pas tellement plus. Coderre a fait un commentaire en disant ben il faudrait on peut pas vraiment déboulonner la statue de Johnny McDonald.
Lui il a dit ce que Valérie Plante avait déjà dit.
Voilà, c'est
sauf
ça.
Qu'il l'a dit hier, faudrait remettre la statue.
Ben oui, c'est ça, il l'a dit le jour de la célébration. le jour du souvenir. Ben, c'est pas le jour du souvenir parce que ça existe déjà, le jour de la réconciliation. Mais c'était peut-être pas le bon jour pour le dire. Puis cette statue-là, de plus on en apprend, même la décision de Mme Plante de dire, ben, il faudrait la remettre parce que c'est, ça témoigne du passé, mais on mettra des plaques autour pour expliquer que combien les gens ont souffert des décisions de cet homme-là. Mais il reste que cet homme-là, il est en hauteur. Il est protégé par un socle de granit et de marbre. Tu sais, ça envoie un message.
Oui, mais quand ils ont fait tomber la statue, ça ne l'a pas protégé trop.
Oui, c'est ça. Puis après ça, tu as le Legault qui a dit carrément, ben lui, non, on fera pas ça parce qu'on a des problèmes de productivité, ce qui est vrai. On a 16% de recul de productivité sur l'Ontario, puis historiquement. Mais évidemment, ça manquait de compassion. Puis ça manquait complètement l'objectif visé par la journée. Justement, c'est la compassion. Et ce qui m'a frappé, donc, d'abord, eux, vraiment, ils se sont pas appropriés le thème de la réconciliation. Ce sont des leaders. Et après ça, ce qui m'a frappé, c'est la réaction des gens à leur manque de sensibilité. Les commentaires sur Coderre, Legault et Trudeau sont, comme je l'ai dit, j'en ai mentionné.
C'est lapidaire.
Oui, voilà, c'est lapidaire. Et tout à coup, j'ai été frappé d'une chose. Je me suis dit que l'admission des comportements coloniaux, là, puis l'intensité des remords, fonctionne un peu comme une charte des valeurs canadiennes.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, si tu as vraiment, tu es profondément sensibilisé, tu es du bon côté. Tu comprends comment fonctionne le c'est une charte des valeurs. C'est-à-dire que tes valeurs vont témoigner du fait que tu es un bon citoyen ou pas. Et un citoyen prêt à être Canadien ou pas. Et là, si tu n'es pas capable de comprendre le tort que le Canada a créé par la colonisation, ben là, tu es du mauvais côté. Puis, il y a comme une volonté de faire une distinction entre...
Attends, je suis pas sûr de te comprendre, tu sais. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de bons côtés à la colonisation.
Non, il n'y en a aucun.
Pour les Autochtones, Métis, Inuit,
là. Il n'y en a aucun. Mais il faut voir, ben justement, je vais y arriver, Patrick, tu vois, mais je vais juste passer par un petit détour. Il y a des fêtes, comme la fête du travail. La fête du travail est en fait la fête des travailleurs, initialement, le 1er mai. Elle a été déplacée en septembre en Amérique du Nord parce que la fête des travailleurs, elle avait été initialement faite pour célébrer une grève extrêmement violente où il y avait eu 6 morts qui avaient été tués par la police suite à cette grève-là. La fête des patriotes, c'est une fête aussi qui célèbre des personnes qui ont été tuées par le régime suite à leurs actions. Les fêtes religieuses aussi, Pâques, c'est une fête qui célèbre la mort de Dieu, l'action de grâce qui célèbre les récoltes. T'as le droit de croire un peu, pas du tout, beaucoup. T'as le droit de t'inscrire en faux. T'as le droit de débattre. T'as le droit de dire, ben moi, ça, je m'en fous, je suis indifférent, je vais aller à Algonquit à la fête du travail. T'as le droit de dire ça. Pourquoi t'as pas le droit de le dire pour la fête de la réconciliation? Parce que le jour de la réconciliation, on relate un crime d'indifférence. Et ce crime d'indifférence-là, qui a permis de martyriser, puis ultimement, de ne pas veiller à la santé jusqu'à la mort de 150 000 enfants.
Mais ça tue du monde.
C'est une indifférence. Alors, si tu fais preuve d'indifférence le jour où on rappelle le crime d'indifférence, c'est un anathème, là.
Là, tu parles de Trudeau, là, qui est allé dans l'Ouest canadien, là, en vacances.
Et Legault aussi. Legault qui a dit, ben écoute, la productivité, ça compte, on va pas commencer. Bon. Puis peut-être un peu Coderre aussi, parce que Coderre Plante, là, parce que les deux ont la même position, qui disent, ben finalement, cette statue-là fait partie de l'histoire. Ouais.
Mais je veux t'entendre sur le férié, l'idée d'avoir un férié au Québec. Qu'est-ce que tu penses? OK, la réponse du PM, moi, je pense que c'était pas le moment de dire ça. C'était pas le moment de dire ça comme ça, là, en marchant, là, comme par-dessus la jambe. Mais sur le fond des choses, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sur le fond, ça fait 20 ans, minimum 20 ans, non, ça fait 40 ans que le Québec a un retard sur l'Ontario de 15%. Tu peux le mesurer comme tu veux, par le nombre d'heures travaillées, par la création d'emplois, par la productivité, par l'investissement. Mais on a toujours 15% de retard. On travaille moins. On travaille moins d'heures. Tu te rappelles Lucien Bouchard qui avait dit travailler, travailler. Ouais. Mais c'est ça, on travaille moins. on a plus de jours fériés que l'Ontario. En fait, on en a officiellement moins, on en a 8, ils en ont 9, mais officieusement plus, on en a 13 au bout du compte, parce que on célèbre, on donne toujours le lendemain de Noël puis le lendemain du jour de l'an comme un jour férié.
Mais regarde, je vais te soumettre une idée. T'sais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aménager ces congés-là? Parce que t'sais, on est censé être une société laïque, par exemple. On a-tu besoin de tous ces congés religieux catholiques?
Ben, Pâques, par exemple, oui, on pourrait dire oui. Ce qui va se passer avec Pâques, c'est que les gens vont refuser, pas parce que c'est Pâques, ils vont refuser parce que Pâques, c'est 4 jours en ligne. C'est un jour le vendredi, deux jours le samedi, dimanche, puis un jour le lundi, généralement. C'est pour même chose pour Noël, même chose pour le jour de l'an. Peut-être la journée du travail, tu sais, la journée du travail pour être...
La fête de la reine.
La fête de la reine, ou des patriotes, on l'appelle Victoria dans le reste du Canada, puis les patriotes aussi. Mais oui, effectivement, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça que ça a été présenté, bizarrement d'ailleurs. Bizarrement, je sais pas pourquoi on n'a pas proposé un réaménagement, parce que, effectivement, je trouve que ça serait une bonne... Mais on pourrait le mettre à discussion, parce que les jours fériés, ça change. Ça change d'une province à l'autre, ce sont pas les mêmes, et ça change dans le temps. On peut modifier les jours fériés. Mmh. Alors, pourquoi pas travailler à une intégration? Mais personnellement, j'aimerais pas que ça soit la journée de la réconciliation, par exemple. Je trouve pas que c'est un thème fort. Je trouve que, au contraire, il envoie énormément de confusion. Moi, je pense qu'on a besoin d'une journée de célébration des nations autochtones. Parce que les nations autochtones vont pas se sentir réconciliées parce que nous avons une journée de la réconciliation. Ils vont se sentir réconciliés quand ils vont sortir de là la misère dans laquelle ils sont. Et la misère dans laquelle ils sont, là, c'est pas juste à cause des pensionnats. C'est à cause du vol des territoires. C'est à cause du système des réserves. C'est à cause de la loi sur les Indiens. C'est un vol des terres autochtones. On les a enfermés dans des réserves où ils ont crevé de faim. Puis après ça, sous prétexte de venir les aider, on est venu leur voler leurs enfants. C'est un ensemble de choses. C'est pas seulement ceux qui se sont fait voler leurs enfants qui souffrent terriblement. C'est toutes les communautés autochtones au complet. Et je trouve que cette décision de lancer une journée de la réconciliation suite à la commission sur la réconciliation, parce que c'était une des recommandations de la commission, elle s'est faite trop vite, sans considération sur ce qui va vraiment aider en bout de ligne. Moi, je trouve pas que c'est bien parti. Je pense pas que ça s'en va quelque part.
Merci, Luc. Bonne fin de semaine.
Merci à toi.
Ben, c'est probablement un des militants anti-vaccination, anti-sanitaire les plus connus. Il s'agit de François Amalega Bitondo. Rappelez-vous, là, il s'est fait arrêter à répétition dans des commerces parce qu'il refusait de porter le masque, par exemple. Donc, arrêté. Il a reçu des contraventions. Il serait rendu à 40 000 $ de contraventions. Et là, écoutez, il a un procès présentement pour entrave au travail des policiers qui a débuté cet après-midi. On va parler avec le journaliste Tristan Péloquin de La Presse qui couvre depuis plusieurs mois toute la mouvance anti-vax et conspirationniste. Il était à l'ouverture du procès aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Salut Tristan.
Salut Patrick.
Donc les circonstances qui ont mené à ce que M. Bitondo soit cité à procès, c'est quoi?
Dans ce cas-là, c'est qu'il est allé à plusieurs reprises, ça s'est passé au mois de mars l'année passée, il est allé dans un commerce maxi sans masque, là, à acheter une baguette juste pour faire une démonstration un peu. Il pouvait rentrer dans le commerce sans masque. Il était filmé par certains de ses proches. Évidemment, les policiers sont intervenus et il a voulu lui montrer qu'il pouvait retourner. Donc, il est retourné dans le commerce. Il a fait intervenir les policiers. Comme ça, ça a duré quelque chose comme 3 heures, l'intervention. 6 policiers impliqués, 2 sergents. Donc, pour essayer de le contrôler, de l'empêcher de retourner là, tour après tour, là, refaire sa petite démonstration dans le maxi. Et donc, ça lui a valu des accusations d'entrave, parce qu'à un moment donné, les policiers se sont un peu tannés, ils l'ont maîtrisé, mais il s'est beaucoup débattu. Alors, il doit se défendre de ça aujourd'hui. On se souviendra, là, il est en prison, M. Amalega, entre autres à cause de ça, parce que pour venir à son procès, il refusait de porter un masque. Et la seule façon que les juges ont trouvé de le faire comparaître, c'est de l'incarcérer, finalement, de lui dire, ben, c'est la seule certitude qu'on a de vous avoir devant nous, c'est que vous soyez en prison, qu'on vous amène un peu de force.
Là, si je comprends bien, c'est ça. Il ne voulait pas porter son masque au début du procès. C'est retrouvé à Bordeaux. Et là, aujourd'hui, il était là. Est-ce qu'il portait son masque?
Non, toujours pas de masque. Il est encadré par 2 policiers qui portent des masques N95, des lunettes. Il est menotté. C'est à quelque part triste à voir ce gars-là. On voit que bon, c'est une personne qui a quand même un, un pedigree anormal dans l'univers, un petit peu complotiste là. C'est un gars qui a quand même une maîtrise en mathématiques, qui était professeur de mathématiques, et on voit qu'il s'est quand même radicalisé dans les derniers mois, au point finalement de se retrouver en prison. C'est quand même assez étonnant. C'est un gars qui a porté le masque là, à certaines occasions dans certaines de ses manifestations, mais là maintenant aujourd'hui il dit que le masque c'est poison, c'est une torture, c'est dangereux. Donc sa position se raffermit considérablement. Puis on voit qu'il n'est pas prêt à reculer sur ses positions, mais pas du tout.
Tristan, ça fait plus d'un an que tu couvres les mouvances conspirationnistes, les mouvances de désinformation. Ils en sont où aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler leur délire?
Ben, moi, ce que je ressens sur le terrain, c'est qu'il y a une certaine forme de radicalisation, effectivement, de certaines franges. Il faut comprendre, ils ont perdu aux élections. Ils n'ont pas réussi à faire élire de députés qui représentaient leur façon de voir les choses. Leur campagne de désinformation sur la vaccination ne fonctionne pas. Les gens se sont fait vacciner. Et là, ils se retrouvent isolés. Bon, ils ne peuvent pas rentrer dans les restaurants, aller dans les événements parce qu'ils n'ont pas la double vaccination. Donc, on sent qu'ils deviennent de plus en plus agressifs, peut-être un peu désespérés. Puis j'aurais tendance à dire, tu sais, ce qu'on voit de M. Amelaga, c'est peut-être ça... à quelque part, cette espèce de radicalisation. On n'est pas dans une radicalisation nécessairement violente, mais on a l'impression qu'ils sont prêts à faire des gestes un peu irréfléchis, pour lesquels, finalement, il n'y a pas vraiment d'issue. Monsieur Amelaga s'est lui-même emboîté dans cette affaire-là. Hein. Il a donné aucune chance, aucune porte de sortie aux autorités, puis là, il est coincé en prison, et si le procès ne se termine pas aujourd'hui, il va passer le week-end en prison, et si ça s'attarde, il va rester encore en prison, et ce sera à cause de sa faute, un peu. Là.
Fait, Tristan, tu parles de radicalisation. Moi, je me souviens, ça fait longtemps qu'on le voit, là, ce monsieur-là, là, monsieur Amelaga, il a manifesté, comme tu l'as dit, dans des épiceries, il a manifesté devant des écoles, il a même interrompu une conférence de presse de Christian Dubé. Je l'ai vu porter le masque, par exemple, quand il a dérangé la conférence de presse du ministre de la Santé. Mais là, écoute, choisir de porter, de pas porter le masque au prix d'aller passer quelques jours à Bordeaux, c'est pas un endroit agréable, la prison de Bordeaux.
Non, clairement, il est pas le premier à le faire là, dans son combat contre la justice. On peut penser un peu à Mario Roy aussi, là, qui s'est ramassé en prison parce qu'il cherchait à tout prix à démontrer que la DPJ est un système d'enlèvement d'enfants. C'en est un autre de cette mouvance-là. Mais non, il va très, très loin. Mais on l'a vu aussi, Monsieur Amelaga, pendant la campagne électorale, aller dans un événement du NPD, hurler à Jack Meaton, qui était un nazi. Et par la suite, devant les écoles, des parents qui lui disaient « ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable ce que vous faites », mais qu'il ne décroche pas, il ne veut pas entendre. Moi, j'ai passé, Patrick, 2h30 avec lui là, en attente d'un de ses procès à Joliette. Et puis la discussion que j'avais avec lui, un à un, était tout à fait cordiale. Il utilisait principalement des arguments logiques, mathématiques, pour me démontrer qu'il n'y avait pas véritablement de pandémie ou qu'il n'y avait pas de grande gravité à la pandémie. Mais quand on le voit aller dans ces manifestations-là, là, il devient carrément un petit peu plus complotiste. Les policiers viennent de dire qu'il disait, bon, le gouvernement veut nous intoxiquer avec le masque. Donc, il y a comme deux personnalités à cette personne-là. Et quand il tombe en mode manifestation, on a comme l'impression qu'il est comme un petit peu, je sais pas si on pourrait dire en transe, mais clairement, il n'y a pas de frein à ce qu'il fait. Et même quand les policiers l'arrêtent et lui disent « Écoutez, vous êtes en état d'arrestation, ce qui est quand même grave, un état d'arrestation. Là, c'est toi et moi, on ne le sera probablement jamais. Sauf si on croit les conspis là, qui pensent qu'on va tous se faire arrêter. » Mais reste que, finalement, sa croyance peut faire franchir des étapes assez sérieuses et dont il ne revient pas, finalement. Il va en payer le prix toute sa vie.
Tristan, tu parles de payer le prix. Je vois souvent des vidéos de complotistes qui sont étonnés de recevoir des contraventions, d'être condamnés à les payer aussi en cour municipale. Ils ont cette certitude quand ils sont sanctionnés que, oups, non, ça s'appliquera pas à moi, j'aurai pas à le payer. À un moment donné, ben, la facture arrive.
Oui, ben en fait, et on le voit, c'est encore ça, M. Amelaga, lui aussi voulait aller devant le tribunal pour dénoncer ou dire les décrets n'ont pas de validité juridique, tu sais, face à la Constitution et tout ça. Mais ces gens-là se défendent seuls par eux-mêmes et ils ne comprennent pas un des principes qui est Un juge, lui, doit se prendre une position par rapport aux décrets, aux lois qui sont présentées à lui. C'est pas au juge de déterminer nécessairement de leur validité. Pour ce faire, il y a une procédure à faire. Il faut évoquer le procureur général. C'est des procédés juridiques qui coûtent très cher, qui sont beaucoup plus longs. Et ces gens-là ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu'il y a une complexité au système de justice et qu'ils ne peuvent pas y faire face seuls. Et ils ont le même problème avec le système de santé. Ils pensent tout comprendre du système de santé. Ils pensent tout comprendre du système d'éducation. Et on le voit, dans tous les cas, ils sont en train d'utiliser beaucoup de ressources en éducation pour essayer de prouver à tout le monde qu'on n'est pas obligé de porter de masque. Et c'est pareil dans la justice. Ils veulent pas passer des tests médicaux, mais quand ils se retrouvent malades à l'hôpital, ben là, ça demande énormément de ressources. Donc, on se retrouve un peu partout avec ce problème-là.
Fascinant. Merci beaucoup, Tristan. Bonne fin de semaine.
Salut, à toi aussi.
Salut, ouais, c'était Tristan Péloquin, journaliste à la presse, qui couvre là toutes ces mouvances conspirationnistes, négationnistes, et qui a couvert aujourd'hui le début du procès du militant antisanitaire François Amalega Bitondo, qui, écoutez, préfère passer du temps à la prison de Bordeaux que de porter son masque devant les tribunaux.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.